Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Métropolez-vous et bienvenue aux fidèles de cette émission ainsi qu'à ceux qui la découvrent à l'occasion de ce numéro. Un numéro qui va être dédié à un sujet qui semble passionner de plus en plus les Français, comme le montrent les nombreux reportages et émissions qui lui sont consacrés à la télévision. Je veux parler du patrimoine, un sujet qui passionne aussi les étrangers qui viennent en vacances en France, le pays le plus visité du monde. Il se trouve que notre région recèle beaucoup de lieux et de sites patrimoniaux grâce à sa riche histoire qui va de la présence romaine à nos jours, une richesse que l'on peut aussi constater sur le territoire de la métropole toulousaine, dans Toulouse bien sûr, mais pas seulement. Que fait-on pour conserver et valoriser ce capital inestimable légué par les siècles? Nous allons essayer de répondre à cette question lors de ce numéro consacré à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dans la métropole toulousaine. Et il y a des personnes, des structures, des collectivités et des associations qui œuvrent dans le domaine de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine en France. Parmi ceux-ci, la Fondation du patrimoine, dont je suis très heureux de recevoir aujourd'hui le délégué régional pour la zone Occitanie-Pyrénées. Il s'appelle Bernard Cassanier et je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à vous aussi, monsieur. Alors, Fondation du patrimoine, la dénomination a l'air explicite à première vue, mais je pense que tous nos auditeurs ne connaissent pas cet organisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans trop rentrer dans le détail pour l'instant, ce qu'est le statut de cette fondation, son organisation, son objet et les actions qu'elle mène.
Tout d'abord, merci de m'accueillir pour cette émission. La Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue en 1997 d'utilité publique. Elle compte aujourd'hui à peu près 570 bénévoles sur tout le territoire français, 34 ici sur le territoire de l'Occitanie-Pyrénées, 70 salariés au niveau national, 2 salariés pour moi dans le Midi-Pyrénées, et également j'emploie 3 services civiques sur l'année.
Alors ça veut dire que c'est une association donc nationale, mais qui a des antennes dans toutes les régions.
C'est une association nationale, pas tout à fait association. Elle est association parce qu'elle a été créée quand même par une loi, par le Parlement français, et donc elle est association parce qu'elle s'appuie sur la majorité par des bénévoles. Le président est bénévole, tous les délégués sont bénévoles, il n'y a que les salariés qu'on appelle les chargés de mission et qui s'occupent des dossiers ici sur place.
Alors son objet précis?
Alors l'objet précis, au départ, la fondation a été créée pour aider les propriétaires qui habitaient le milieu rural et qui avaient un bien de caractère à le sauvegarder et à en faire quelque chose d'habitable. Il se trouve que aujourd'hui, on intervient sur tous les champs pratiquement du bâti, mais aussi sur tous les patrimoines naturels et même sur les races. Donc on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Je voudrais dire simplement que depuis 2002, donc, on intervient auprès des collectivités locales, des communes, des associations, devant pratiquement tout le monde.
Les actions qu'elles mènent, est-ce que c'est uniquement recueillir des fonds pour financer la sauvegarde, la protection, éventuellement la rénovation des biens dont vous parlez, qu'ils soient matériels ou immatériels d'ailleurs?
Alors au départ, quand elle a été créée, l'association bénéficiait de 75% des successions en déshérence, c'est-à-dire des héritages qui n'étaient pas réclamés. Aujourd'hui, cette succession en déshérence a beaucoup diminué du fait que les notaires maintenant ont adopté le numérique, ils retrouvent plus facilement les héritiers et que les banques et la Caisse des dépôts et consignations peuvent garder 10 ans ces fonds. Un petit exemple, en Midi-Pyrénées, on avait il y a une dizaine d'années à peu près 500 ou 600 000 euros de succession en déshérence. L'année dernière, j'ai eu 103 000 et cette année, j'ai 110 000. Vous voyez, ça fond comme neige au soleil.
Oui.
Ces successions en déshérence permettaient d'aider les petites communes à effacer ou à diminuer leur reste à charge. Aujourd'hui, il a fallu trouver d'autres solutions pour qu'on efface ce reste à charge par l'appel public aux dons, c'est-à-dire le mécénat qu'on dit populaire, tout le monde, mais il y a également des entreprises qui donnent et elles sont assez généreuses.
Merci de nous avoir déjà donné quelques indications sur l'organisation, les objectifs et les actions de la Fondation du patrimoine. Nous entrerons dans le détail avec vous dans quelques minutes puisque nous allons maintenant retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. « Nous ouvrons ce flash avec un événement qui a lieu tout près des locaux de Radio Présence. C'est l'été avant l'été, grâce au premier rendez-vous en musique sur les trois scènes du festival Rio Loco à la Prairie des Filtres.
Et oui, cette 25e édition du festival convie le public à un voyage sans frontières, porté par la voix des femmes. Cette programmation singulière offre toute la place à des artistes féminines, chanteuses, compositrices, musiciennes ou encore plasticiennes, de la fusion au rock, du hip-hop au blues, de l'électro aux beats africains et latino, les artistes invités croiseront l'histoire et la mémoire des musiques du monde. Ce voyage multiculturel au féminin, qui a débuté depuis quelques semaines par nombre de rencontres inédites dans la ville, s'apprête à se poursuivre plus intensément jusqu'au 17 juin et à l'affiche quelques pointures comme Jeanne Haddad, Lisa Simone, Angélique Kidjo ou encore Flavia Coelho et Fatouma Diawara. Beaucoup de talents artistes en devenir ou émergentes à découvrir.
Nous changeons de registre maintenant dans un domaine plus informatif et informatique. Il faut noter le lancement d'un nouveau site internet pour explorer les changements de la métropole toulousaine.
Et oui, un site qui doit présenter les actions portées sur le territoire et mettre en avant, en toute transparence, les actions des élus locaux. Le site 5 ans de progrès. .fr vient donc d'être mise en ligne. Des progrès pour tous, dans tous les quartiers, pour la qualité de vie, pour faire encore grandir le territoire et pour la confiance. Tout est répertorié sur ce site afin de permettre à chacun de mesurer les progrès réalisés. 5ansdeprogrès.toulouse.fr se constitue en 5 onglets qui sont d'ores et déjà disponibles. L'onglet Mon quartier, pour la confiance, pour tous, pour la qualité de vie et pour faire grandir Toulouse.
Et puis enfin, une autre information qui devrait intéresser tous les citoyens de la Ville Rose. La mairie expérimente le budget participatif pour co-construire la ville avec les Toulousains.
À l'occasion des Assises métropolitaines de la politique de la ville le 11 septembre 2019, un vote sera proposé aux Toulousains jusqu'au 15 octobre pour choisir les projets lauréats du budget participatif. Ce budget s'inscrit dans le contrat de ville. Les 16 quartiers prioritaires toulousains bénéficieront de 850 000 euros pour la réalisation de projets portés par les habitants. Durant le mois d'avril, 154 idées de projets ont été proposées par des Toulousains. Le 4 juin dernier, ce sont 200 personnes qui se sont réunies au Capitole pour participer à l'Agora des idées. Les habitants porteurs d'idées ont pu exposer leurs propositions aux élus et aux habitants membres des instances de participation citoyenne. Certaines idées ont pu fusionner en un même projet. À l'issue de cette rencontre, 30 idées de projets ont émergé, comme par exemple le jardin de la biodiversité et ferme urbaine maraîchère pour l'éducation de Toulousains très éveillés, ça est au quartier des Pradettes, ou encore la construction d'un kiosque culturel aux abords du lac dans le quartier de la Rinerie, et la poubelle des plastiques durs urbains oubliés mais sauvés de l'Ancéan dans le quartier Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue, et bien d'autres. Une démarche qui s'inspire de celle intitulée « Dessine-moi Toulouse », un appel à projet lancé par Toulouse Métropole pour métamorphoser des sites structurants ou à fort potentiel. Au total, 114 candidatures ont été présentées avant que ne soient désignés les talentueux lauréats.
Voilà donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors, je vous ai vu écouter attentivement ce flash, Bernard Cassagnier. Je voulais vous demander une réaction. Cet appel à projet « Dessine-moi Toulouse », ça c'est quelque chose à quoi vous devez être sensible, je pense.
Très sensible. Je trouve que la ville de Toulouse fait beaucoup d'efforts pour informer les habitants, pour les faire participer au projet. Je suis étonné depuis à peu près un an de voir tous ces chantiers qui sont ouverts dans Toulouse et également bon, tout ce que veut faire la municipalité. J'ai entendu également qu'elle était attentive à ce que les subventions soient données aux associations à condition que ça réponde à un appel à projet et je trouve que c'est très citoyen et très bien.
Merci beaucoup pour cette réaction, ces réactions. Nous allons tout de suite prolonger notre échange et revenir à l'exploration du thème de cette émission consacrée, je le rappelle, à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invité du jour, Bernard Cassagnier, délégué régional de la Fondation du patrimoine pour la zone Occitanie-Pyrénées. Et je voudrais tout de suite préciser un point avec vous, même si vous l'avez déjà partiellement fait au début de cette émission. Lorsqu'on parle des types de biens dont la Fondation du patrimoine peut et veut soutenir la sauvegarde et la mise en valeur, il ne s'agit pas seulement de patrimoine bâti, de bâtiments. Il y a aussi du mobilier, des œuvres d'art, voire du patrimoine dit immatériel et même des espaces naturels.
Tout à fait. Alors, le patrimoine bâti, bien entendu, jusqu'à l'année dernière, c'était quand même assez serré, c'était classé. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. On ne pouvait pas, par exemple, aider un particulier qui avait un bâtiment qui était considéré comme un monument historique. Maintenant, on peut le faire même au travers d'une souscription publique. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est depuis le début de l'année seulement. Deux choses, comment se monte un dossier? En général, une municipalité, une association prend contact avec nous, nous dit voilà, j'ai un projet, je voudrais par exemple, je vais citer un bel exemple, l'abbaye de Sylvanès. L'abbaye de Sylvanès a voulu refaire les vitraux. Ces vitraux de Sylvanès, ça coûtait à peu près 270 000 euros hors taxe. La Fondation du patrimoine a lancé un appel au public. Vous le savez, Sylvanès est très fréquenté. Nous avons reçu 120 000 euros en gros de dons. La DRAC a donné 80 000, le conseil départemental de l'Aveyron 10 000, et ça a financé, ça a permis à la mairie de Sylvanès de ne rien apporter finalement de sa poche. On a déjà un bel exemple. Un autre très bel exemple, c'est la cathédrale de Lavaur. L'adjoint au maire chargé de la culture, M. Guy Pouille, anime très très bien la souscription. Il a gagné l'année dernière le premier prix du mécénat populaire et ça permet à ceux qui collectent bien, comme ça, des fonds, de leur remettre un chèque de 6 000 euros supplémentaires pour les aider dans leur projet. Ensuite, il y a tout ce qui est immatériel. Alors, c'est le mobilier d'église, c'est de la restauration, l'acquisition ou de tableaux de maîtres. Pour acheter, il faut qu'il y ait au moins 15% de restauration. On ne peut pas acheter s'il n'y a pas de restauration.
Ah oui, d'accord. C'est un critère qui doit être obligatoirement rempli, si je puis dire. Et puis, il y a eu récemment aussi le relevage, qu'on appelle le relevage de
l'orgue de Saint-Cernin.
De Saint-Cernin. C'était un très gros et très beau projet parce que c'est un cavalier-école. Les spécialistes savent à quel point c'est quelque chose de prestigieux et celui de Saint-Cernin l'est particulièrement. Donc, c'était un gros chantier très important aussi pour la rénovation, je pense, du centre historique de Toulouse.
L'ensemble de la place Saint-Cernin qui va avoir un nouveau visage. Alors, par lequel encore tout à fait, on le voit dans les propositions qui sont faites. Je crois qu'il faut marcher avec son temps et qu'effectivement, si on veut que Toulouse centre, ce ville soit classée UNESCO, c'est-à-dire patrimoine mondial de l'humanité, il faut vraiment faire ces travaux et que ça soit embellir le centre-ville de Toulouse.
Donc les biens dont vous allez soutenir la sauvegarde, la rénovation, peuvent aussi bien appartenir à des collectivités, des entreprises, des associations ou des particuliers. Là, il n'y a pas d'exclusion.
Alors, l'exclusion, si. Pour un commerçant ou une entreprise, il ne faut pas, par exemple, si on veut faire une souscription, que les recettes, son chiffre d'affaires, excèdent 15% du montant des travaux. Vous voyez, c'est
gymnastique. D'accord, un critère comme un autre.
C'est le code des impôts, parce qu'on est surveillé par la Cour des comptes aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure.
Oui, c'est un peu normal avec...
Tous les fonds que nous brassons...
Voilà, que vous brassons, que ce soit surveillé.
Je veux dire aussi que tous les fonds que nous recevons sont dédiés. C'est-à-dire que si vous voulez faire un don, vous dites ce don, je le donne pour l'église paroissiale de Lourdes, puisqu'on est en souscription en ce moment. L'église paroissiale, ça n'a rien à voir avec les sanctuaires. Dans l'église paroissiale de Lourdes, aujourd'hui, ils ont collecté à peu près 110 000 euros, peut-être un peu plus aujourd'hui, je n'ai pas regardé ces jours-ci. 110 000 euros pour, au départ, un projet qui allait coûter 280 000 euros. Et c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a vu un don d'un monégasque de 50 000 euros, dont ça aide aussi. On a des dons comme ça assez importants qui viennent un peu de l'extérieur.
Donc ça veut dire qu'une personne, un particulier... ou une entreprise qui va faire un don, c'est toujours un don qui est dédié à un projet bien précis.
Absolument. Par exemple, pour le faire pour Radio Présence, si on pouvait le faire, on dirait, voilà, Radio Présence porte le numéro de dossier 3683, dont le don est fait pour Radio Présence, et nous, on ne peut pas en disposer ailleurs.
Voilà, c'est-à-dire que ça ne tombe pas dans un pot commun, et c'est vous ensuite qui redistribuez au projet que vous souhaitez soutenir. Non, c'est directement le particulier qui va dire, ou l'entreprise, moi je soutiens ce projet et pas un autre. Alors, quels sont les critères qui vont décider faire que vous allez soutenir un projet de sauvegarde, de rénovation, de mise en valeur, plus qu'un autre?
On peut dire qu'on soutient tous les projets. Si on nous le demande, on essaie de soutenir tous les projets. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait sur place une équipe d'animation pour faire vivre la souscription. Nous, on ne donne que des outils. Donc une caisse à outils, une boîte à outils, et à charge pour la municipalité de mettre en œuvre soit une association, soit une équipe municipale qui va faire vivre le projet. je vous le disais, Lourdes, on a M. Gélis qui, lui, anime bien cette souscription. Ça marche très bien. On a, dans les Hautes-Pyrénées aussi, à Aurignac, une toute petite commune à côté de Bagnères, le maire tout seul qui anime, il organise des concerts, il jette des bouteilles à la mer, dit-il. Et puis, il a ramassé aujourd'hui pratiquement 26 ou 27 000 euros. Donc, ça dépend tout à fait des personnes qui animent cette souscription.
On vient toujours vous solliciter pour soutenir la sauvegarde d'un bien, ou ça peut être vous qui vous manifestez les premiers parce que vous savez qu'il y a un projet là qui vient de se faire jour et vous vous dites « oui, ça, on a envie de le soutenir ».
Alors, on le fait un peu maintenant, bon, c'est pas la majorité, mais si vous voulez, j'ai fait un maillage territorial, tous les départements ont au moins un ou deux, sinon cinq, six délégués territoriaux, c'est-à-dire que j'essaie de mettre en place un maillage très serré, très fin, pour être au plus près des réalités des communes et de répondre à leurs attentes. Il y a beaucoup de petites communes qui ne savent pas comment faire et donc on est là pour les aider.
Est-ce que c'est vous qui décidez au niveau de la région de soutenir les projets que vous avez envie de soutenir ou est-ce que ça doit être soumis, est-ce que vous devez les soumettre auparavant au niveau national?
Non, c'est ici au niveau régional, mais ça répond à des critères très précis. On ne peut pas avoir il ne peut pas y avoir de loup, on va dire, entre guillemets. Oui. C'est pas possible.
Les mécènes qui vous soutiennent, pour la plupart, c'est quoi? Ce sont essentiellement des entreprises? Il y a aussi beaucoup de particuliers? Ou est-ce qu'il y a vraiment des gros mécènes réguliers qui vous soutiennent depuis très longtemps?
Alors, ça, c'est, on va dire, assez nouveau ici, en Occitanie-Pyrénées. Il y a ce que nous appelons les grands mécènes, les mécènes nationaux. J'en citerai quelques-uns, Total, L'Oréal, AG2R La Mondiale, CGPA, MFI, c'est une mutuelle qui nous aide pour tout ce qui est matériel roulant. On aide en ce moment à la restauration d'une machine à vapeur 241P qui est ici derrière la gare de Toulouse et l'association a collecté pour ce faire 140 000 euros et on lui a apporté un chèque l'autre jour de 19 000 euros supplémentaires parce qu'on a répondu à un don, un appel à projet national.
Une question que je me posais, est-ce que vous pouvez intervenir dans le choix des entreprises ou des artisans qui vont rénover un bien?
Non,
vous n'avez pas votre mot à dire.
Heureusement que non.
Pour dire qu'il n'y a pas de
risque. Non, c'est transparent.
Voilà, vous n'intervenez que dans le financement et après. Ça passe par d'autres...
Après que les entreprises qui travaillent pour ces projets, j'aille les taxer un peu, ça c'est vrai, je vais les voir pour qu'elles nous aident.
Alors, on va centrer un peu maintenant notre discussion sur la métropole toulousaine, hein, éventuellement sur l'immédiate périphérie. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets actuellement soutenus par la Fondation du patrimoine, ou projets qui ont récemment abouti ou qui pourraient démarrer prochainement?
On en a une grosse vingtaine, oui, on va dire une grosse vingtaine. Alors, il y en a qui sont clos, comme par exemple l'orgue que vous avez cité tout à l'heure, l'orgue de Saint-Cernin. Il y a également le couvent des Dominicains à Rangueil. Là, c'est un chantier important. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour nous, puisqu'on ne pouvait pas aller dans le bâti contemporain. Et depuis 2 ans, on peut le faire maintenant. On a autre chose comme ça aussi dans le contemporain. C'est les ateliers d'Edmond Lay à Barbazan-de-Batte, à côté de Tarbes. Edmond Lay est un architecte qui est vivant, avant-gardiste, et qui par exemple, son bâtiment qu'il a construit pour la Caisse d'épargne à Bordeaux, qui est classé monument historique. C'est très rare qu'un architecte de son vivant se voit couronné comme ça.
Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de communes hors de Toulouse qui étaient concernées. Vous pouvez peut-être nous les citer parce qu'il y a des projets, moi, que j'ai découverts qui sont vraiment très intéressants, pour certains même un peu insolites. Je vous laisse nous les citer.
Alors, Cugnot. Alors, Cugnot, c'est pas très gros comme projet, mais ce qui est intéressant, ce sont des norias. Vous savez, les norias, on en fait une à Murat, aux limites du Tarn et de l'Aveyron, où cette noria va puiser l'eau dans une rivière et la remonte par un aqueduc très haut. C'est des choses, c'est un passé qu'il ne faut pas perdre, c'est un passé que l'on doit conserver, parce que ça montre la difficulté qu'avaient nos aïeux déjà pour aller chercher de l'eau. Il ne suffisait pas de tourner le robinet. Donc Unio, c'est intéressant à ce niveau-là. On a eu de la part, par exemple, comme mécène, les parfums Berdou qui nous ont aidés d'une manière substantielle pour ce projet. On ne va pas tous les citer, mais je voudrais vous dire l'Onaguet. L'Onaguet, donc, c'est la restauration des 3 tourelles, des 3 tours du château. Et pour ce faire, Total nous alloue une subvention de 150 000 euros. 150 000 euros. Vous voyez, par exemple, l'escalier monumental d'Auch, Total nous a donné 280 000 euros. Pour les remparts de Lectour, 230 000. Pour ceux de la Ressengle, 180 000. Donc, total, pour nous, est un gros prescripteur.
Alors je crois que ces gros mécènes vous donnent effectivement des sommes très importantes, mais souvent il y a des conditions, c'est-à-dire qu'ils vont demander est-ce que ça serve à soutenir des projets qui ont un lien avec un domaine bien précis.
Alors, il y a le domaine précis, jusqu'il y a quelques années, et ils intervenaient sur toute la France. Mais on se rend compte aujourd'hui, on le voit avec la mission Berne, on en parlera tout à l'heure, quand on a voulu recenser tout ce que l'on pouvait sauver ou restaurer, qui était un peu en péril dans notre pays, on est aujourd'hui à plus de 2000 projets. 2000 projets. Sur ces 2000 projets, on en parlera tout à l'heure, on en a reçu 13 emblématiques, c'est-à-dire un par grande région, et 250 qu'on a appelés en maillage. Ça veut dire qu'on a essayé de mailler tout le territoire. Pour revenir à Total ou à ses mécènes, il faut qu'on soit dans un périmètre d'activité de Total. Donc Toulouse est dans le périmètre de Total. Le Gers, il n'y est plus trop. Tarbes, ça peut y être parce qu'on a Pau qui n'est pas loin. Il y a 39 km, donc à 50 km, ça marche. Autrement, ça ne marche pas. Ce que demandent aussi les prescripteurs, c'est que souvent, il y ait une bonification sociale.
Oui, qu'il y a un aspect social, en tout cas.
Ils demandent également qu'il y ait une ouverture culturelle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un projet derrière. Il faut que la pierre soit vivante. Il y a trop de communes, ils le font pour sauvegarder, mais qui achètent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Mais il faut qu'il y ait un projet en même temps, il faut qu'il y ait un projet intéressant.
Donc je vous donne beaucoup d'argent, mais je demande quand même que certains critères soient respectés.
Ils ne le donnent pas à moi, malheureusement. Oui. Ils le donnent à la commune qui fait les travaux.
Ils vous donnent à la Fondation du patrimoine. Oui, oui. Alors vous avez parlé de la mission Berne. Justement, j'allais y venir. Le président Emmanuel Macron a désigné pour mener une mission de sauvegarde du patrimoine en France. Est-ce que vous êtes très impliqué dans ce projet? La Fondation du patrimoine et ses antennes régionales, il semblerait bien que oui.
Oui, et bien entendu, nous sommes, on va dire, la tête de pont de ce qui va se faire en matière d'aide au travers de la mission Berne. La mission Berne, on peut le saisir directement, mais tout revient par la Fondation du patrimoine.
Donc c'est ça le rôle que vous jouez. Est-ce que vous jouez un rôle d'alerte? Vous signalez que dans la région, il y a tel ou tel bien qu'il faut absolument
Personnellement, j'ai signalé, moi, 50 sites. 50. J'en avais mis deux en priorité, enfin un peu plus en avant que les autres, c'était l'hôtel de Polignac, effectivement, à Condom, et le château de Bonrepos-Riquet à Bonrepos. Alors, l'hôtel de Polignac, lui, a reçu le gros lot, puisque sur toute l'Occitanie, c'est le seul projet qui a été retenu, et une dotation de 780 000 euros. Le château de Bonrepos, lui, il va devoir se contenter de 50 000. Et les platanes du canal du Midi de 200 000, c'est pas quand même des petites sommes.
Non,
c'est quand
effectivement.
C'est quand même intéressant.
Alors ça, c'est pour la mission Berne, donc au niveau vraiment de l'État et du pays. La mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, on le sait, ont fait de la mise en valeur du patrimoine une priorité de leur mandat, des mandats actuels. Est-ce que vous jouez un rôle auprès d'elles?
Mais on a signé une convention cadre il y a 2 ans, c'était au mois de juin 2016. Avec la mairie de Toulouse, avec comme premier objectif, c'était Notre-Dame de la Dorade, l'ensemble de la restauration. Puis après, ça s'est été diminué au niveau simplement des cloches, parce que c'est un très gros projet, la Dorade. Et puis le relevage des orgues de Saint-Sernin. Mais l'adjoint chargé de la culture, M. Grasse, m'a dit que bientôt il y aurait la rainerie. On interviendra dans les gros projets. Dans les gros projets. Moi, je veux bien aider Toulouse, si on a des projets, et faire bénéficier cette manne extérieure à la collecte, si vous voulez, de la souscription.
C'est-à-dire que vous avez à la fois un rôle de conseiller, de collecteur de fonds dans ces affaires, auprès de la métropole?
Collecteur de fonds, oui. Conseiller, non, je ne pensais pas. On peut,
enfin, les conseillers sont des lieux qu'il faudrait, oui. Peut-être, auxquels ils ne pensent pas, eux, forcément.
On en a parlé, mais à bâton rompu, hein, c'est pas un conseil, c'est une discussion.
C'est informel, on peut
dire.
C'est
informel.
Voilà, donc du coup, est-ce que vous participez à la réflexion générale sur ce fameux projet de classement mondial au patrimoine de l'UNESCO du centre historique de Toulouse?
Alors, pour le moment, non, mais l'aménagement de Saint-Sernin pourrait y participer. On pourrait participer à ce niveau-là. Et puis, je vous disais, le château de la Rainerie aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir en métropole toulousaine dont vous avez eu vent ou qui se préparent?
Il y a vent, oui, mais il y a des choses que fait toute seule la métropole. Parce qu'il y a deux choses, il y a la mairie de Toulouse et il y a Toulouse Métropole.
Oui, alors là, c'est les 37 communes hein, dans la métropole. Parce que, contrairement à ce que les gens pourraient croire, il n'y a pas que des biens patrimoniaux à Toulouse, il y en a aussi beaucoup autour.
Vous l'avez vu, il y a Lonaguet, il y a Bruguière, on va signer une convention très bientôt.
Il y a Cornebarieux, j'ai vu.
Bon, mais c'est fini là,
Balma,
c'est réglé.
Balma,
voilà. Si on nous demande, on est là.
Eh bien, j'espère que tout le monde l'aura noté. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, Bernard Cassagnier, et de nous avoir fait mieux connaître la Fondation du patrimoine et les projets qu'elle soutient dans la métropole toulousaine et aussi dans l'ensemble de l'ex-région Midi-Pyrénées. Je pense que beaucoup de nos auditeurs auront été étonnés de découvrir le nombre de sites métropolitains et régionaux qui sont concernés par vos actions. Nous avons la chance de vivre dans une métropole et une région où le patrimoine est riche, on ne s'en rend pas toujours assez compte. C'est aussi un atout sur le plan touristique, hein, les collectivités, la métropole en tête, en sont conscientes et elles ont vraiment la volonté de le mettre en valeur. Encore faut-il que ce patrimoine soit sauvegardé et entretenu. C'est là que la Fondation du patrimoine joue un rôle important et je vous invite à consulter son site web pour connaître dans le détail toutes les actions qu'elle mène et peut-être, pourquoi pas, pour lui apporter aussi votre soutien. Il vous suffit pour ça de vous connecter au site www.fondation-patrimoine.org. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.